Bien, on va pouvoir reprendre. Tant pis pour ceux qui sont en train de fumer une cigarette dans le froid. Mais ils sont peu nombreux, je crois. Alors, la dernière fois, je vous avais promis qu'on examinerait le volet syrien et la paix israélo-jordanienne. Donc, c'est en effet le pendant des difficultés qu'il y a dans le dossier palestinien. Alors, pendant que les ambassadeurs israéliens et syriens se concertent discrètement à Washington, la diplomatie publique se poursuit. Le gouvernement israélien propose un retrait partiel du Golan, tandis que Damas ne veut entendre que d'un retrait total pour une paix globale. La droite israélienne fait campagne contre tout abandon du Golan. Netanyahou accuse Rabin d'être disposé à restituer tout le Golan, ce qui n'a pas tort d'ailleurs. Le gouvernement répond qu'aucune promesse n'a été faite en ce sens. S'ils sont d'autant plus sincères que les ministres, y compris Peres, ignorent que Rabin a mis dans la poche ce que Rabin a mis dans la poche des Américains. Mais que tout accord avec la Syrie comprendrait un retrait significatif. Le gouvernement a le devoir moral de négocier et ensuite d'en saisir le peuple, auquel il appartiendra de se prononcer par voie de référendum. Une fraction conséquente du Parti travailliste est hostile à la suppression des colonies du Golan qui appartiennent à la mouvance socialiste. Rabin est obligé de menacer de poser la question de confiance pour mettre au pas les députés récalcitrants qui ne veulent pas porter la responsabilité de la chute du gouvernement. Mais ce n'est que partie remise. Les députés récalcitrants envisagent de faire scission du Parti travailliste. Lors du débat du 3 octobre 1994, le Premier ministre expose longuement sa stratégie de paix avec la Syrie. À la suite de l'accord, il y aura un retrait extrêmement limité sans démantèlement des implantations. Ensuite, on mettra en œuvre un processus de normalisation des relations avec Damas qui durera 3 ans. Nous mettrons une ambassade israélienne à Damas, une chancellerie syrienne à Jérusalem et non pas à Tel Aviv, comme tous les autres ambassades, des bus israéliens qui iront à Alep, Damas ou ailleurs, des avions d'El Al, des liens culturels et commerciaux, etc. Et réciproquement. On négociera les fameux arrangements de sécurité, lesquels comprennent une réduction mutuelle des forces armées dans la région concernée, une démilitarisation progressive sur une base asymétrique. En fin de processus, il y aura le déploiement d'une force multinationale sur le modèle de celle qui existe toujours dans le désert du Sinaï. Un référendum aura lieu pour faire approuver l'accord de paix. Rabin ne se prononce pas sur l'ampleur du retrait final et obtient un vote de soutien de 53 voix contre 45. La réponse officielle syrienne reste la même. Le retrait total doit précéder la normalisation qui n'a pas été énoncée par la résolution 242, qui ne mentionnait que la fin de l'état de belligérance. Mais le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk El-Sharrah, accepte de donner une interview à la télévision israélienne diffusée le 7 octobre, ce qui est sans précédent. La paix, paix, elle est à la porte, ne perdons pas de temps. Lorsqu'un accord aura été conclu et publié, tous verront les fruits et seront satisfaits. Il est de l'intérêt commun des deux parties de ne pas traîner en longueur. Plus le retrait sera rapide, plus les fruits de la paix seront visibles. Cet accord inclura le Liban Sud. Je cite, un accord israélo-syrien rendant plus aisé la conclusion d'un accord israélo-libanais qui nécessitera au préalable un retrait israélien du Liban Sud. La résistance libanaise et celle du Hezbollah n'auront plus de raison d'être. Alors adviendra une ère de paix et de sérénité à la frontière nord d'Israël et toute idée d'une attaque surprise sera rendue impossible. Fin de citation. Dans sa tournée du mois d'octobre, Christopher se montre optimiste mais reconnaît la profondeur du fossé séparant les positions syriennes et israéliennes, mais on est dans les bonnes directions. Le 24 septembre, l'autorité palestinienne étend son autorité sur le Waqf, c'est-à-dire les institutions religieuses de Jérusalem et de Cisjordanie, c'est-à-dire 950 mosquées et 2500 fonctionnaires religieux, à partir du 1er octobre. La Jordanie est contrainte d'accepter la rétrocession en Cisjordanie, mais refuse d'abandonner son contrôle des lieux saints. En octobre, à la suite du décès du mufti de Jérusalem, la Jordanie et l'autorité palestinienne désignent chacun de leur côté un son successeur. C'est l'homme d'Arafat qui l'emportera. Le roi Hussein est décidé à accélérer les négociations avec Israël, les impasses actuelles dans les dossiers syriens et palestiniens lui donnant une meilleure position. Il compte beaucoup sur ses relations personnelles avec Rabin, qui lui semble avoir la carrure nécessaire pour réaliser une paix générale dans la région. Le 29 septembre, Rabin et le roi Hussein se rencontrent à Aqaba. La partie israélienne a voulu imposer sa version du traité de paix, mais la partie jordanienne a eu le temps de proposer un contre-projet. Le point le plus controversé est celui du droit au retour des réfugiés palestiniens. Pour Israël, ça ne concerne pas la Jordanie et doit être traité dans la phase finale des négociations avec Palestiniens. Pour la Jordanie, on est justement dans la phase finale et on ne peut mettre de côté un sujet qui importe à une bonne partie de la population jordanienne, puisque plus de 50% de la population jordanienne est palestinienne. On peut dire presque la moitié de la population est concernée par le droit au retour. On se met d'accord pour que cette question soit mentionnée dans le traité. L'autre contentieux porte sur les 380 km² de territoire jordanien occupé par Israël, qui a installé des implantations spécialisées dans la production de fleurs. Bien entendu, le dossier comprend aussi les ressources locales en eau indispensables pour cette culture. Rabin propose de reconnaître la souveraineté jordanienne sur ces terres contre un engagement de continuer à les louer à Israël. Le roi y voit la possibilité d'ouvrir un marchandage puis se ravise le 30 septembre. Il n'y aura pas de paix sans rétrocession effective de la totalité du territoire jordanien. Les négociateurs se remettent activement au travail pour trouver une formule satisfaisante. On envisage un échange de territoire à dimension strictement égale avec compensation aux ressources en eau. Les négociations israélo-jordaniennes tranchent avec celles avec les Palestiniens. Les Jordaniens ont bien préparé leurs dossiers et les maîtrisent. Ils sont traités en égaux par leurs homologues israéliens qui sont comme eux des diplomates et des administrateurs. On est loin de la condescendance souvent méprisante, typique du comportement des militaires israéliens envers les négociateurs palestiniens. Les Israéliens ont toujours eu une haute opinion des souverains hachémites. Rabin le premier a un grand respect pour le roi Hussein alors qu'il ne cache pas sa piètre opinion d'Arafat. Comme avec l'Égypte et dans une certaine mesure avec la Syrie, on est dans un rapport d'État à État et non dans une situation coloniale. Il est vrai aussi que les enjeux de cette négociation, aussi importants qu'ils soient, n'ont pas la valeur existentielle pour les deux parties qu'ont ceux de la négociation israélo-palestinienne. Le 12 octobre se tient une nouvelle rencontre entre le roi Hussein et Rabin. D'emblée, le premier ministre israélien affirme qu'il n'y a pas de revendication sur la moindre portion du territoire jordanien et sur la moindre goutte d'eau. Il n'en reste pas moins que la négociation sur le territoire et l'eau dure encore quelques jours. Les autres points pendants sont celles du règlement des conflits. Les Jordaniens veulent un arbitrage, ce que refusent les Israéliens qui se souviennent de leur défaite dans la question de Taba, dans le dossier israélo-égyptien. Enfin, la partie jordanienne est obsédée par le danger d'un nouvel exode massif de Palestiniens et veut inscrire dans le traité que les deux parties ne doivent pas s'engager à un mouvement forcé entre les deux États. Both parties must not engage in the forced movement of persons between the two states. La partie israélienne trouve cela trop contraignant. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, le roi Hussein et son frère, le prince Hassan, ainsi que Rabin, Pérez et Barak, rejoignent les négociateurs pour la mise au point finale. On trouve des formules de compromis sur les points litigieux. Les Israéliens conserveront leur droit d'usage des terres arables de l'Arava, 30 km², dans le cadre d'un accord d'allocation de 25 ans renouvelable. Du point de vue de la répartition des ressources en eau du bassin de Jourdain, le traité est particulièrement avantageux pour la Jordanie. Le matin du 17, le traité est paraphé. Les jours suivants, on se met d'accord sur la transposition cartographique et on le rend public. Le préambule et l'article 1 du traité établissent la paix entre les deux pays. L'article 2 définit les principes généraux fondés sur la Charte des Nations Unies, le droit international. Je cite, « Les parties reconnaissent et respecteront mutuellement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'autre. » Fin de citation. La résolution 242, citée dans le préambule, est utilisée sans être nommée. Je cite, « Elles reconnaissent et respecteront le droit de l'autre à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. » Les clauses suivantes sont les engagements de conduite pacifique. Je cite, « Elles développeront des relations de bon voisinage et de coopération en vue d'assurer une sécurité durable, s'abstiendront de recourir aux menaces ou à l'usage de la force l'une contre l'autre et régleront tous les litiges bilatéraux par des moyens pacifiques. Elles respectent et reconnaissent la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région. Elles respectent et reconnaissent le rôle central du développement humain et de la dignité humaine dans les relations régionales et bilatérales. » Fin de citation. La clause sur les transferts forcés de population a été très atténuée par les Israéliens. Je cite, « Elles croient en doute que les déplacements sous leur contrôle de personnes contre leur gré qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l'une des parties ne devraient pas être permis. » Fin de citation. L'article 3 définit la frontière internationale comme celle de la Palestine mandataire, sans préjudice aucun au statut de tout territoire passé sous contrôle militaire israélien en 1967. On procédera à la délimitation de la frontière internationale. L'article 4 aborde les questions de sécurité. Les deux pays travailleront à la constitution d'une zone de sécurité et de coopération dans la région sur le modèle du processus d'Helsinki en Europe. Outre les assurances habituelles de ne tolérer aucune action hostile de l'autre partie sur son territoire, les deux parties s'engagent à s'abstenir d'autoriser l'entrée, le stationnement et les opérations sur ou via leur territoire de forces militaires, personnels ou équipements d'une tierce partie dans des circonstances qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l'autre partie. Ce qui correspond à la hantise traditionnelle israélienne de stationnement de troupes d'autres pays arabes sur le sol jordanien, comme dans les années 50 ou après la guerre de 67. Les deux pays coopéreront dans la lutte contre le terrorisme. Ils œuvreront ensemble à la création d'une zone régionale libre d'alliances militaires et à l'édification d'un Moyen-Orient libre d'armes de destruction massive, conventionnelle et non conventionnelle, dans le contexte d'une paix globale, durable et stable, caractérisée par le renoncement à l'usage de la force, par la réconciliation et par la bonne volonté. L'article 5 porte sur l'établissement des relations diplomatiques et culturelles. L'article 6 sur la coopération en matière de ressources hydrauliques. L'article 7 sur la coopération économique et l'interdiction des mesures de boycottage. L'article 8 aborde la question des personnes déplacées et des réfugiés qui sera traitée dans un cadre multilatéral. Le nom des Palestiniens n'est pas mentionné. L'article 9 sur les sites religieux et historiques voit la consécration de la demande jordanienne sur Jérusalem. Je cite. Chaque partie accordera la liberté d'accès aux sites religieux et historiques. À cet égard, conformément à la déclaration de Washington, Israël respecte le rôle spécial actuel du royaume hachémite de Jordanie pour les lieux saints de l'islam à Jérusalem. Lorsque les négociations sur le statut permanent auront lieu, Israël accordera une haute priorité au rôle historique joué par la Jordanie pour ces sites. Les parties agiront de concert pour favoriser les relations interconfessionnelles entre les trois religions monothéistes, pour œuvrer à l'entente religieuse, l'engagement moral, la liberté de culte, ainsi que la tolérance et la paix. Les autres articles concernent les échanges culturels et scientifiques, l'entente mutuelle et le bon voisinage, la lutte contre la criminalité et la drogue, les transports et les routes, la liberté de navigation et l'accès aux ports, l'aviation civile, les postes et télécommunications, le tourisme, l'environnement, l'énergie, le développement de la faille du Jourdain, la santé, l'agriculture, Aqaba et Eilat, la réclamation, la législation, la ratification et les mesures intérimaires. Bref, un traité complet. Dans l'article 29, les Jordaniens ont obtenu sur l'arbitrage que l'on reprenne le texte du traité de Washington entre Israël et l'Égypte. Je cite. Les litiges apparaissant par suite de l'application ou de l'interprétation du présent traité seront résolus par des négociations. Tout litige de cette sorte qui ne pourra être résolu par des négociations sera réglé par conciliation ou soumis à arbitrage. Il faut maintenant organiser ce qui est devenu un rituel, une grande cérémonie sous patronage américain. Le président américain se rendra ainsi à la signature, ce qui lui permettra de se rendre également en Égypte, en Israël, au Koweït et en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de grande approbation dans le monde arabe. L'autorité palestinienne y voit, je cite, « une tentative de perpétuer le statut de l'occupation israélienne de la ville sainte et ses lieux saints chrétiens et musulmans sous le couvert d'un accord israélo-jordanien ». Fin de citation. Hafez al-Assad qualifie d'impie l'idée de louer des terres arabes à Israël. Il a peur de l'établissement d'un précédent, mais se montre modéré. Bien que nous soyons convaincus de votre faute et de votre atteinte à toute action commune, nous vous souhaitons le succès sans vous approuver. Nous ne commettrons aucun acte d'opposition matérielle et palpable pour entraver votre travail. » Fin de citation. De même, Moubarak rappelle que l'Égypte n'a pas loué de terres à Israël. En Israël, c'est une quasi-unanimité nationale en faveur du traité. La Knesset le ratifie par 105 voix pour, 3 contre et 6 abstentions. En Jordanie, l'opposition menée par les frères musulmans n'a pas le droit à la parole. La résignation domine, mais les organisations professionnelles font savoir qu'elles s'opposeront à toute normalisation des contacts. On s'oriente comme en Égypte vers une paix froide. Avec d'importantes précautions militaires, on a organisé une importante cérémonie de signature dans le désert de l'Arava le 26 octobre. 5200 personnalités ont été invitées, mais seuls quelques États arabes sont représentés par leurs ambassadeurs. Le roi Hussein, Rabin et Clinton font les discours attendus en faveur de la paix. S'adressant au Parlement jordanien, le président américain promet la prospérité qui accompagnera la paix. Dans les territoires occupés, le Hamas et le Fatah ont appelé chacun de leur côté une journée de deuil suivie à 100%. Dans les mois qui suivent, non sans difficultés parlementaires du fait de l'opposition d'une partie de la droite républicaine qui refuse de voir les États-Unis payer systématiquement à chaque pays israélo-arabe, Clinton obtiendra du Congrès l'effacement d'une grande partie de la dette jordanienne envers les États-Unis, c'est-à-dire 417 millions de dollars en 1995. Le Club de Paris, c'est l'institution qui gère les dettes internationales, rééchelonnera sur 20 ans 1,21 milliard de dollars de la dette jordanienne. L'aide civile américaine sera augmentée, tandis que grâce à l'aide militaire, l'armée jordanienne sera rééquipée. Si la Jordanie profitera pleinement des dividendes de la paix, elle doit s'engager à passer d'État rentier à pays d'économie libérale, ce qui n'est pas sans risque pour le régime. L'opinion publique israélienne se félicite d'avoir une paix chaude contraire à la paix froide avec l'Égypte, mais comme on l'a dit, la société jordanienne, contrairement à la monarchie, n'est pas prête à aller dans cette voie. En Égypte, Clinton s'est entretenu avec Moubarak et Arafat. Ce dernier s'engage à lutter contre le terrorisme. À Damas, Assad fait un geste en proposant de faire passer la durée du retrait israélien du Golan de 12 à 16 mois et de permettre durant cette période une présence diplomatique israélienne, mais non une ambassade, dans la capitale syrienne. Mais dans la conférence de presse, le président syrien refuse de condamner le terrorisme et fait porter la responsabilité de la violence sur Israël. C'est considéré comme un grave échec pour la diplomatie américaine. En Israël, Clinton réaffirme devant la Knesset son indéfectible soutien à Israël dans un discours plein de références bibliques. À Jérusalem, le président américain renonce à la visite des lieux saints chrétiens et musulmans, officiellement par manque de temps. En fait, Faisal al-Husseini avait annoncé la fermeture de l'esplanade des mosquées au cas où Clinton viendrait en compagnie du maire israélien Ehud Olmert. La Maison-Blanche qualifie la tournée du président américain de succès. Personne ne semble noter qu'à part en Israël et au Koweït, il n'y a eu d'accueil populaire. Le 30 octobre 1994 s'ouvre à Casablanca le sommet économique sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Middle East and North Africa, or MENA. C'est dans cette période, dans les années 90, que se répand l'expression MENA, Middle East and North Africa, qui correspond à l'expression française ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique du Nord ne fait pas partie du Moyen-Orient, ce qui est une innovation relativement récente, parce que dans les années 40 et 50, l'Afrique du Nord était considérée comme faisant partie du Moyen-Orient. Mais ce sont là des appellations dont la variabilité géographique est très grande. Donc, la conférence de Casablanca, organisée par le Forum économique mondial de Davos et le Council of Foreign Relations. 61 pays sont représentés, 10 chefs d'État sont venus, ainsi que 1114 chefs d'entreprise. Les Israéliens et les Américains sont particulièrement présents. Les Européens sont plus réticents. L'objectif est de créer un partenariat entre le monde économique et celui de la paix afin de consolider la paix. Il est difficile aux délégués israéliens de prôner devant leurs homologues arabes et occidentaux la libre circulation des hommes et des marchandises et la création d'un marché commun régional alors que le bouclage des territoires occupés se poursuit. Dans une rencontre en marge de la conférence avec Arafat, Rabin annonce la fin de l'isolement. Le boycott d'Israël est levé dans les faits tout en restant inscrit dans les résolutions de la Ligue des États arabes et on annonce la création d'une banque destinée à favoriser le développement économique du Moyen-Orient. Dans le document final, les pays participants insistent sur le rôle du secteur privé dans l'établissement de la paix. Je cite « Les participants au sommet se sont unis autour de la vision qui a motivé leur présence à Casablanca, celle d'une paix globale et d'un nouveau partenariat entre les gouvernements et les hommes d'affaires dévoués au renforcement de la paix entre Arabes et Israéliens. Les leaders politiques et du monde des affaires se sont engagés dans ce partenariat avec une conscience plus profonde de leur interdépendance et de leurs objectifs communs. Les représentants du secteur privé reconnaissent que les gouvernements doivent continuer à forger les accords de paix, à créer l'environnement incitatif pour les échanges et les investissements et à jeter les bases. Ils admettent par ailleurs leur responsabilité dans la mobilisation de leurs atouts pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de paix au Moyen-Orient. Les gouvernements soulignent le rôle crucial du secteur privé dans la mobilisation rapide des ressources adéquates pour faire sentir les effets positifs de la paix. Les participants s'engagent à prouver que le monde des affaires peut accomplir son devoir en faveur de la paix tout en poursuivant ses objectifs économiques, démontrant ainsi que le profit peut contribuer substantiellement à faire prospérer l'économie au service d'une paix durable. Autrement dit, la paix israélo-arabe est une paix fondée sur le libéralisme économique, ou en tout cas, quelle est la doctrine officielle du projet. Alors, les projets sont ambitieux, mise en place d'une communauté économique du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui impliquerait une étape déterminée, la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes dans la région. Mais il faudrait d'abord que les pays de la région eux-mêmes ouvrent leurs frontières, ce qui n'est par exemple pas le cas entre l'Algérie et le Maroc. La libre circulation des marchandises et des hommes, création d'une banque de développement pour la zone MENA. Un secrétariat permanent sera établi pour exercer le suivi et la Jordanie accueillera le second sommet en 1995. On est ainsi dans la complète utopie du libéralisme économique des années 1990. On ne veut pas voir la force des cloisonnements internes de la région, dont Israël-Palestine n'est qu'un cas d'espèce, et la prégnance du contrôle étatique des différentes rentes. En un sens, le libéralisme économique est un programme tellement révolutionnaire dans la région, est réellement révolutionnaire dans la région, parce que s'il était appliqué, il remettrait en cause les relations clientélistes entre les régimes politiques et les populations, suscitant ainsi une très forte instabilité que le contrôle policier et la répression ne pourraient corriger. Autrement dit, c'est dans une certaine mesure, c'est l'application du libéralisme économique qui a préparé le printemps arabe en ruinant l'assise populaire des régimes autoritaires arabes. Ça a été le cas en Égypte en particulier, et aussi en Syrie, où les progrès du libéralisme économique ont sapé le compromis social entre les dictatures et les sociétés. Et donc là, c'est un effet indirect, pas seulement du processus de paix, mais de l'utopie du libéralisme économique des années 1990 et 2000. Mais c'est politiquement incorrect de dire que le libéralisme économique a préparé le printemps arabe, alors vous m'en excuserez. De surcroît, les projets mirifiques de développement économique régional se heurtent à la peur arabe d'une hégémonie économique israélienne. Elle est largement non fondée du fait de la non-complémentarité des économies arabes et israéliennes et de l'ouverture des marchés arabes, en particulier ceux du Golfe, au grand courant de l'économie mondiale, notamment les productions des nouveaux pays industrialisés d'Asie. Les possibilités d'exportation israélienne sur les marchés arabes sont faibles. compte tenu qu'en effet, on ne peut pas imaginer que l'économie israélienne puisse être compétitive par rapport à la Chine, l'Inde ou la Corée sur les marchés arabes. Il y a des questions d'échelle qui jouent. En revanche, l'économie israélienne sera une grande bénéficiaire, surtout dans les marchés asiatiques, de la levée effective du boycott secondaire et tertiaire. Conjuguée avec une stratégie d'abaissement des protections douanières, cette politique permettra un développement des exportations israéliennes, dont les produits de haute technologie, dans le cadre de la mondialisation des échanges. L'État hébreu recueille bien d'importants dividendes de la paix, mais non dans le cadre régional du Moyen-Orient, et auquel il faut ajouter aussi le fait que l'ouverture économique israélienne liée à la paix va accroître considérablement les inégalités sociales à l'intérieur de la société israélienne. Là, j'ai parlé de l'effet du libéralisme économique sur les pays arabes, mais on a des effets équivalents ou quasi équivalents dans la société israélienne elle-même. Alors, nous avons terminé un chapitre. Là, nous entamons un nouveau chapitre qui sera le dixième de ce qui sera un jour le tome 5 de la question de Palestine. Ça arrive, on arrive vers la fin. Et le texte liminaire de ce chapitre est un entretien de Mahmoud Darwish au journal Le Monde du 12 mars 1995. Et la question est suivante. Donc, l'écrivain israélien Amos Oz reproche aux intellectuels palestiniens de ne pas faire leur autocritique et regrette de vous voir dans le camp des faucons alors qu'ils vous prenaient pour une colombe. Réponse. Les Israéliens considèrent malheureusement que le devoir des Palestiniens est de leur plaire. Je suis désolé de constater que l'image qu'Amos Oz s'est faite de moi, tantôt comme colombe, tantôt comme faucon, est le produit de son imagination et correspond à des critères purement israéliens. Elle traduit une incapacité à comprendre ma position. J'ignore si je suis colombe ou faucon. Pour moi, la paix est un principe et une valeur absolue. Elle est dans l'intérêt de la nation et de l'humanité. Mes hésitations et mes réserves portent sur la démarche et non sur le principe ni sur l'objectif. J'ai dit clairement et je maintiens que l'accord n'ouvre pas la bonne voie vers la paix ni ne constitue pas une école pour les demandeurs de la paix. Il n'est pas suffisamment attractif pour entraîner les Arabes. Je suis très peiné de constater que l'image d'un ghetto palestinien que j'avais vu se profiler à la lecture de l'accord s'est en partie vérifiée. Ce qui dicte l'attitude d'Amos Oz, c'est la croyance en la supériorité morale de la société israélienne par rapport à la palestinienne. Ses propos reviennent à dire ils ne font pas leur autocritique comme nous. S'il est satisfait de lui-même et de la morale de la société israélienne qui est une société occupante, c'est une question qu'il concerne. Ce sentiment de supériorité émane d'une longue histoire culturelle en vertu de laquelle les Israéliens ne peuvent tolérer que leur soit disputé le rôle de victime. Ils veulent être victorieux et dotés d'une puissance nucléaire sous le prétexte de défendre leur sécurité, mais ils ne peuvent admettre que leur puissance militaire et une occupation prolongée fassent d'un autre peuple une victime. Pour eux, il y a d'autres victimes au monde qu'eux-mêmes. Amos Oz a critiqué le meurtrier d'Hébron. Il a néanmoins estimé que c'était la preuve qu'il existe un Hamas au sein de la société israélienne. En d'autres termes, le mal absolu ou le prototype du mal se trouve dans une autre société, la société palestinienne. Ce qu'Amos Oz aurait dû faire, c'est critiquer la politique qui aboutit à l'occupation et donner naissance à des criminels au sein de la société israélienne. Donc, dans ce texte, évidemment, qui est très riche, on a à la fois la question de l'ampleur de l'autonomie. Est-ce que l'autonomie palestinienne n'est pas une forme d'indirect rule, comme on aurait dit à l'époque coloniale, c'est-à-dire de gouvernement indirect? Mais d'autre part, ça renvoie à la question de fond de l'identification des sociétés dans le rapport victimaire, qui est tout à fait essentiel dans les années 1990 et 2000, puisqu'on entre, en particulier dans le dossier israélo-palestinien, dans ce qu'on appelait la concurrence des victimes. Mais évidemment, cet aspect n'apparaît peu dans la négociation politique, alors qu'il reste fondamental dans l'approche que le vécu des sociétés. Mais en tout cas, on va commencer par une chronique d'une période ordinaire, c'est-à-dire où se passe pas grand-chose, sinon les habituelles violences et diplomatie un peu vaines. Les élections américaines de mi-mandat voient la victoire de la droite républicaine la plus dure. Les isolationnistes ont l'intention proclamée de réduire drastiquement l'aide étrangère. Clinton tranquillise immédiatement Rabin en lui confirmant que ça ne concernera pas Israël. Point plus difficile, l'éventuel stationnement de troupes américaines sur le Golan dans le cadre d'un règlement pourrait être mis en cause. L'administration Clinton tient bon. Elle sait qu'elle disposera d'un vaste consensus populaire en cas de paix au Moyen-Orient. Il n'en reste pas moins que, selon certains sondages d'opinion, ce projet est nettement impopulaire dans l'opinion publique américaine. Début novembre 1994, Israël lève très partiellement et progressivement le bouclage des territoires occupés. Arafat est hué à Gaza lors des obsèques d'un responsable du djihad islamique tué dans un attentat à la bombe attribué par tous aux Israéliens. Le tombeau des patriarches est rouvert à Hébron avec une séparation complète entre juifs et musulmans et des conditions drastiques de sécurité. Juifs et musulmans se plaignent de ce partage puisqu'ils considèrent chacun de leur côté que le lieu saint doit leur revenir exclusivement. La première ministre turque Tansu Çiller, de visite en Israël et dans les territoires occupés, se rend sans prévenir les Israéliens à la Maison d'Orient à Jérusalem. Rabin parle de tricherie. La ministre française Simone Veil fait la même visite, mais après avoir prévenu les Israéliens, pour Rabin, elle a été seulement mal conseillée. La Knesset adopte un avant-projet de loi sanctionnant toute personne participant à des activités de l'OLP à Jérusalem-Est, ce qui vise spécifiquement la Maison d'Orient. On prévoit des peines de 15 ans de prison pour les contrevenants. Le 8 novembre a lieu l'habituelle rencontre Rabin-Arafat, dont je vous ai maintenant dispensé des photos. Les résultats sont modestes. On s'engage à reprendre les négociations sur la deuxième phase de l'autonomie. Alors que le calendrier de la déclaration de principe a déjà pris plusieurs mois de retard, le Premier ministre israélien ne semble pas pressé. Je cite, « Nous devons discuter des conditions du redéploiement des élections. Nous devons mettre au point des arrangements de sécurité pour les Israéliens et pour les colonies. Nous devons discuter de la sécurité extérieure, du transfert des pouvoirs, des problèmes juridiques avant de passer à la phase suivante. » Fin de citation. Les responsables militaires israéliens sont hostiles au redéploiement qui les empêcherait d'assurer la sécurité des colons. On étudie différentes hypothèses limitant le redéploiement à une journée ou à certains lieux, ce qui est inacceptable pour les Palestiniens. Le 11 novembre 1994, un attentat suicide d'un membre du djihad islamique contre un poste de l'armée israélienne près de la colonie des Netzarim dans la bande de Gaza fait 3 morts et plusieurs blessés chez les militaires israéliens. Pour les Palestiniens, l'assassinat du chef islamiste au début du mois est ainsi vengé. Toute la classe politique israélienne s'en prend à Rafat. L'intéressé lance une nouvelle rafle de responsables du djihad islamique. Le débat reprend en Israël sur les coûts insupportables qu'entraîne la protection des petites colonies comme Netzarim, qui ne comprend que 28 familles. Mais pour Rabin, il n'est pas question de démanteler la moindre colonie avant la fin de la négociation finale. Le 18 novembre, la répression d'une manifestation en faveur du djihad islamique dégénère en affrontements sanglants. Contre les jets de pierre, les policiers d'Arafat utilisent leurs armes à feu. L'émeute fait 15 morts, dont un policier et plus de 200 blessés. Le Hamas et le djihad accusent Arafat d'infamie et de collaboration avec Israël. Le Fatah évoque un complot fomenté par des parties étrangères. Abdel Shafi, en tant que président du Croissant Rouge à Gaza, exerce une médiation entre les parties. Les Occidentaux attribuent les violences à la dégradation des conditions économiques et sociales, d'où la nécessité d'accélérer l'arrivée de l'aide internationale. Le lendemain, les manifestants ressortent dans la bande de Gaza en Cisjordanie pour conspuer à la fois Rabin et Arafat. Il se heurte cette fois aux forces israéliennes. Le bilan est de 3 morts et de plusieurs blessés chez les Palestiniens et d'un tué chez les Israéliens. Arafat appelle à l'unité nationale. Le Hamas continue de refuser publiquement la guerre civile tout en contestant la légitimité de l'autorité palestinienne. Arafat organise un grand meeting d'une quinzaine de milliers de personnes le 21 novembre en démonstration de force. Il fait ressurgir la milice des faucons du Fatah. Les hommes hurlent leur fidélité au chef et leur hostilité aux islamistes. Au-delà de l'événement lui-même et indépendamment des multiples services de sécurité, la politique d'Arafat est de restaurer au sein du Fatah un mouvement d'activistes capables de contrer sur le terrain le Hamas. C'est l'origine du Tanzim, sorte de branche armée du Fatah. Après avoir conclu une trêve, le Hamas organise à son tour une manifestation d'égale importance le 26 novembre. La presse palestinienne de Jérusalem est temporairement interdite à Gaza pour avoir osé donner une estimation du nombre de manifestants supérieur à celle de la police. Ce qui ne se fait pas, en France en tout cas. Des négociations ont lieu. Arafat souhaiterait que le Hamas participe aux futures élections municipales, mais le mouvement islamiste exige qu'elle soit apolitique, c'est-à-dire qu'elle n'applique pas l'approbation du processus d'Oslo. C'est dans ce contexte général que reprennent les négociations. En Israël, l'école sécuritaire, représentée en particulier par l'armée, est hostile à tout nouveau redéploiement et souhaiterait le gel de la situation présente. Arafat s'est révélé incapable d'affronter le terrorisme et la bande de Gaza est en train de se slimaniser. Cela a un grand écho dans l'opinion publique, exaspérée par la suite des attentats. Du côté palestinien, le Hamas annonce son intention de libérer seuls les territoires occupés, la voie diplomatique étant une duperie. Le seul élément encourageant est la réunion à Bruxelles, à la fin novembre, du comité de liaison ad hoc des pays donataires qui débloque immédiatement une somme de 125 millions de dollars pour parer aux besoins les plus pressants de l'autorité palestinienne. De fait, 184 millions de dollars ont été versés en 1994, surtout au dernier trimestre. Le problème supplémentaire est de trouver la voie pour faire parvenir le financement à la police palestinienne. Ni la Banque mondiale ni le PNUD ne veulent prendre en charge cette mission qui n'est pas dans le registre de l'aide au développement. Je rappelle, le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour ceux qui l'ignorent. On trouve finalement une solution temporaire. L'UNRWA, sous autorisation de l'Assemblée générale de l'ONU, s'occupera du blanchiment de l'argent en le faisant transiter entre les pays donataires et l'autorité palestinienne. Quant aux multiples dons en nature destinés aux Palestiniens, ils sont victimes pour le moins de la mauvaise volonté de la bureaucratie israélienne. Ils sont bloqués pendant plusieurs semaines ou à plusieurs mois par les douanes qui font payer des frais d'entrepôt. En cas de refus, ces matériels, souvent retenus pour non-respect des normes israéliennes, sont vendus aux enchères. L'ensemble est hétéroclite, des camions bennes d'ordures, des motos, des ambulances, des ordinateurs, de l'appareil scientifique, des arbres de Noël donnés par la Finlande, etc. Au début de décembre, les responsables israéliens envisagent des amendements aux accords. Le redéploiement de l'armée pourrait être partiel ou échelonné. Peres a fait une proposition dans ce sens à Arafat qu'il n'a pas immédiatement rejetée. Rabin y est favorable, mais on voit le risque de casser la dynamique de l'autonomie. Un Arafat affaibli n'aurait pas les moyens politiques de se confronter avec les islamistes. Christopher s'aligne sur la position d'un report du redéploiement, tant qu'Arafat ne contrôlera pas son opposition armée, mais à condition qu'il soit négocié avec l'OLP. Regardez comme ils sont mignons, là. Le 10 décembre 1994, à l'occasion de la remise de leur prix Nobel de la paix à Oslo, ville mise pratiquement sous pied de guerre par les mesures de sécurité, Rabin, Peres et Arafat renouvellent publiquement leur engagement, malgré les difficultés et les obstacles passés, présents et à venir. Leur discours révèle leurs appréhensions des choses. Arafat évoque les problèmes concrets, les colonies de peuplement, le redéploiement israélien, le retransfert des pouvoirs aux Palestiniens, les élections et aussi Jérusalem. Il réclame l'aide des États-Unis et de la Russie en leur qualité de coparrains du processus de paix, celle de la Norvège et de l'Égypte pour aplanir les obstacles et invite les pays donateurs d'aide à tenir leurs promesses. Le premier ministre israélien se livre à un plaidoyer lyrique en faveur de la paix et l'élimination de la violence. Pérez se montre le plus optimiste, évoquant un Moyen-Orient sans guerre, sans ennemis, sans missiles balistiques, sans tête nucléaire, fait d'échanges et de partage des richesses, de concurrence et non de domination. En coulisses, Pérez propose que l'on procède d'abord aux élections palestiniennes, puis que l'on négocie ensuite les conditions du redéploiement. Arafat demande un temps de réflexion. Au Liban, la guérilla de Hezbollah se fait plus efficace, infligeant des pertes aux Israéliens et à leurs supplétifs. Les chefs militaires israéliens plaident pour une nouvelle opération de grande envergure, mais Rabin s'y oppose. Du Japon, où il est en visite officielle, il remet les choses en place le 14 décembre. Je cite « Quiconque pense avoir une réponse militaire garantie pour résoudre ce problème se trompe. » Fin de citation. Il reconnaît même que certaines opérations spectaculaires de commando contre les chiites, telles que l'enlèvement de Mustafa Dirani ou le bombardement de la base de Hezbollah, ont eu des conséquences tragiques. Je cite « Leur réponse est venue à Buenos Aires et à Londres, ne l'oublions pas. » Fin de citation. En dehors du rapport de force avec le Hezbollah, Rabin tient compte de l'évolution des discussions de Washington avec la Syrie. Pour progresser dans les questions de sécurité, on s'est mis d'accord pour des entretiens discrets entre responsables militaires israéliens et syriens. Au début de novembre, Barak, accompagné du chef de conseiller militaire de Rabin, le général Denis Yatom, a ainsi rencontré l'ambassadeur syrien. Il s'est montré particulièrement ferme sur les exigences de la sécurité israélienne. Les Syriens ont paru déçus, mais accepté d'envoyer l'homologue de Barak, Hikmat Shehabi, à Washington. Ce proche de Assad rencontre Rabinovitch le 19 décembre et reprend les positions habituelles de la Syrie. L'important est sa venue et sa rencontre avec Barak le 21 décembre. Les discussions semblent prendre un aspect sérieux. On s'accorde sur le but à obtenir en matière de sécurité, mais non sur les principes. Les deux militaires sont reçus par Clinton à la Maison-Blanche, signe de l'importance que les États-Unis apportent à ce dossier. Les problèmes demeurent. Barak ignore l'engagement que Rabin a mis dans la poche des Américains et continue de raisonner dans le cadre du maintien d'une large présence israélienne sur le Golan, alors que Shehabi explique que l'on ne peut pas définir les mesures de sécurité sans connaître au préalable où se situeront les frontières. Comme Barak doit quitter ses fonctions le 31 décembre pour entrer dans la carrière politique, il ne peut continuer les discussions. Son successeur, Amnon Shaak, ne pouvant dans l'immédiat s'absenter d'Israël. Quant à Assad, la lecture du procès-verbal ne lui paraît pas encourageante, les demandes de Barak étant excessives, le mettant dans une situation pire que l'actuelle. C'est là qu'on a évidemment les contradictions du système. Dans la mesure où Barak ne connaît pas l'engagement de Rabin, il fait passer un mauvais message à la partie syrienne. Parce que lui, il raisonne en conservant une bonne partie du Golan. Alors que les Syriens avaient entendu autre chose. Donc pour les Syriens, les Israéliens font machine arrière. Une telle rencontre ne passe pas inaperçue des médias. La presse israélienne en fait état dès le 23 décembre avant que de Damas ne confirme le 25. Barak a posé les conditions rédhibitoires contraires à la loi internationale. Assad tient un sommet tripartite à Alexandrie avec Moubarak et le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il obtient leur soutien public tandis que Rabin fait une visite discrète à Oman. Les discussions de Washington sont suspendues pour plusieurs semaines, d'autant plus que la presse américaine en a révélé l'existence. Quant à l'Égypte, elle relance une campagne pour faire du Moyen-Orient une zone nucléarisée et menace de ne pas renouveler son adhésion au traité de non-prolifération nucléaire, ce qui a le don d'agacer sérieusement l'administration Clinton, à un moment où Israël commence à évoquer le danger que constituerait le nucléaire iranien. Pour Rabin, le 8 janvier 1995, on a changé d'année, vous vous rendez compte? L'Iran représente un double danger pour la communauté internationale à cause de sa volonté de disposer de l'arme nucléaire et en raison de son soutien au terrorisme international. Fin de citation. Selon certains experts israéliens et américains, il faudrait 5 ans pour que Téhéran puisse disposer de la fameuse bombe. C'est ça le problème des experts. Certains évoquent publiquement une opération préventive de l'aviation israélienne contre les installations iraniennes. La question du nucléaire iranien doit être comparée à celle du nucléaire pakistanais. Dans les années 1980, la rumeur a couru d'une action conjointe israélo-indienne contre les centres nucléaires pakistanais et ce thème a été repris régulièrement par la presse pakistanaise. Il y a eu probablement des conversations israélo-indiennes sur ce sujet, mais on n'est pas allé plus loin. L'Inde est trop vulnérable à des représailles pakistanaises et Israël n'a pas les moyens d'agir seul. Le Pakistan inquiet a multiplié les assurances que ses ambitions étaient purement nationales et qu'il n'était pas question de construire une bombe atomique islamique ni de diffuser la technologie militaire nucléaire dans d'autres pays musulmans. La réalité s'est montrée plus complexe sur ce sujet. Israël semble avoir accepté ses assurances. Par ailleurs, le Pakistan, comme l'Inde et Israël, et contrairement à l'Iran, n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Les deux puissances du sous-continent indien ont été seulement exposées à des pressions et à des sanctions américaines. En revanche, la nucléarisation de ces deux pays, qui sont dans la proximité de l'Iran, est certainement un motif supplémentaire pour Téhéran de se lancer dans cette voie. On a ainsi le risque de voir se propager l'armement nucléaire par contagion régionale. Le 21 décembre, Arafat et Peres se mettent d'accord pour la reprise des négociations au Caire sur les élections palestiniennes. Cela doit servir de couverture à un deuxième canal de négociation entre Uri Savir et Abu Ahla sur l'ensemble de l'accord d'intérim. La question de la sécurité reste primordiale. Le 25 décembre, un attentat suicide du Hamas fait 12 blessés à Jérusalem, dont 5 soldats. Le martyr est un ancien policier de l'autorité palestinienne qui a déserté après les affrontements avec le Hamas. Et le début de l'année 95 est plutôt morose. Des violences éclatent à l'occasion de l'élargissement de la colonie juive d'Ephrat à proximité de Bethléem. Le gouvernement Rabin affirme ne pouvoir rien faire puisque le financement est privé et que la décision prise sous le gouvernement Shamir, et que la décision a été prise sous le gouvernement Shamir, c'est-à-dire par Rabin, ministre de la Défense. L'armée israélienne proclame le secteur zone militaire fermée afin de pouvoir interdire les manifestations arabes auxquelles participent des militants pacifistes israéliens, ce qui n'empêche pas de nouveaux affrontements. Pour les Palestiniens, c'est une violation majeure de l'esprit de la lettre des accords d'Oslo. Rabin tente un compromis, l'extension sera limitée à la proximité de la colonie existante. Selon lui, je cite, « La décision est conforme à notre politique car aucune loi n'interdit à une colonie de construire des maisons à condition qu'elle ne soit pas éloignée de plus de 1,5 km de ses limites et ne touche pas à un village arabe. » Fin de citation. Il accorde, après plusieurs jours d'atermoiement, une autorisation partielle, ce qui a pour mérite de mécontenter à peu près tout le monde. Le 3 janvier 1995, à proximité des Retz, un accrochage entre soldats israéliens et policiers palestiniens fait 3 morts chez ces derniers. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu le premier. Shimon Peres tente d'atténuer la crise, mais de nouveaux heurts le lendemain font 2 blessés chez les Palestiniens. On va installer un téléphone rouge entre l'armée israélienne et les policiers palestiniens afin de mieux coordonner leurs mouvements. Le même 3 janvier, 3 Palestiniens sont tués à Ramallah par une unité spéciale de l'armée israélienne. Les jours suivants, 4 autres Palestiniens sont tués dans des conditions similaires. L'armée israélienne utilise dans ses commentaires des euphémismes comme neutralisation ou liquidation. Remarquez, ça c'est le vocabulaire de toutes les armées actuelles. Au monde, on ne tue pas, on neutralise. J'ai un de mes collègues qui faisait remarquer que l'armée utilisait le vocabulaire des entreprises et que les entreprises utilisaient le vocabulaire de l'armée, faisant des offensives, des stratégies, etc. C'est pas de moi, c'est de mes collègues. Les discussions qui reprennent au Caire ne sont qu'un dialogue de sourds. Peres prétend que la décision prise par le cabinet consiste à ne construire aucune nouvelle colonie, à ne pas confisquer de terrain pour élargir les colonies existantes ou en construire de nouvelles, et de ne pas investir d'argent public dans l'extension des colonies, ce qui au moins jouait sur les mots, comme le montrent les nouvelles confiscations de terres, pour faire passer des routes de contournement des agglomérations arabes. Très clairement se dessine la carte des revendications territoriales israéliennes à partir des faits accomplis sur le terrain. On parle d'une annexion de 12% de la Cisjordanie, dont le reste constituera une enclave, puisque l'armée israélienne se maintiendra dans la vallée du Jourdain. En compensation, les Palestiniens auront une route entre Gaza et la Cisjordanie, l'accès aux ports et aux aéroports israéliens, éventuellement des échanges de territoires ou des locations sur le modèle jordanien. En ce début d'année 1995, on note une véritable convergence d'approche entre les colons pragmatiques, l'armée et le gouvernement israélien. Il s'agit d'assurer les moyens d'annexer cette partie de la Cisjordanie en créant les voies de contournement des agglomérations arabes. Outre le fait que l'on simplifie la désignation des objectifs de la violence arabe, puisque seuls les Juifs ont le droit d'utiliser ces routes, on tronçonne le territoire et on multiplie les enclaves. Pour la population palestinienne, les routes signifient la confiscation de terres, l'interdiction pour les agriculteurs de se rendre dans leurs champs et, de façon plus générale, une limitation considérable des possibilités de déplacement. La véritable négociation sur la définition du redéploiement des forces israéliennes n'est pas entre Israéliens et Palestiniens, mais entre le gouvernement Rabin et les responsables des mouvements de colons, au moins pour ceux qui ont l'assurance de se trouver dans la future zone annexée par Israël. Il en résulte une accélération brutale de la colonisation. Alors qu'en 1993 et 1994, la moyenne des nouvelles mises en chantier était de 480 par an, en 1995, elles seront portées à 1800. C'est en cette même année qu'il voit la plus grande part de l'augmentation du nombre de colons en Cisjordanie dans la bande de Gaza, alors qu'ils étaient 98 000 à la fin de 1992. Ils seront 138 000 à la fin de 1995. En même temps, le gouvernement Rabin maintient officiellement la fiction qu'un tel élan de construction est le fait exclusif d'initiatives privées dans les limites des colonies déjà existantes. On calme ainsi les critiques des États-Unis et de la communauté internationale. De ce fait, les foyers de tension se multiplient. Chaque nouveau chantier est l'occasion de manifestations et d'affrontements. On se met à parler de nouvelles intifadas. En ce qui concerne les 6 000 prisonniers palestiniens, Nabil Chart explique, je cite, « Ce sont des militants nationalistes qui ont lutté contre l'occupation ». J'ai dit à la délégation israélienne que nous refusions ces arguments selon lesquels leurs mains sont tachées de sang. Je leur ai dit que chaque pilote israélien ayant bombardé un camp palestinien a les mains tachées de sang, comme chaque dirigeant israélien ayant ordonné de tirer sur les enfants de l'intifada. Fin de citation. Les sondages d'opinion catastrophiques pour le gouvernement Rabin, aussi bien du fait des conditions économiques et sociales que des impasses du processus de paix, ne lui facilitent pas la tâche. Il est de notoriété publique que la division passe à l'intérieur du Parti travailliste entre partisans de l'école sécuritaire proche de l'armée et des services de sécurité et ceux de l'approche diplomatique. Les sondages dans les territoires occupés indiquent une même désillusion dans l'opinion publique envers Arafat et le processus de paix. Pour sauver leurs positions respectives, Rabin et Arafat se réunissent le 21 janvier à Eretz. Le premier affirme comprendre les appréhensions palestiniennes en matière de colonisation, le second les besoins israéliens en matière de sécurité. La calmie ne dure pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je me trompe. La calmie ne dure pas. Le 22 janvier 1995, un double attentat suicide du djihad islamique à Netanya, au nord de Tel Aviv, frappe dans une gare routière des soldats israéliens de retour de permission. Le bilan est de 19 morts et d'une soixantaine de blessés. Le communiqué de revendication affirme que l'opération est l'unique riposte adéquate à la poursuite de l'établissement des colonies en Cisjordanie occupée et à Jérusalem. Telle doit être la réponse qui ne doit pas être celle d'un négociateur faible mendiant de la paix auprès des usurpateurs de la terre. Le gouvernement Rabin décide le bouclage des territoires occupés. En même temps, il donne son accord pour la création de 8 000 logements supplémentaires dans la périphérie du Grand Jérusalem, c'est-à-dire s'étendant jusqu'à la périphérie des villes palestiniennes de Ramallah, Bethléem et Jéricho. Le lendemain, Rabin s'adresse directement aux Palestiniens à la télévision. aux Israéliens à la télévision. Il appelle à l'unité nationale et à la poursuite du processus de paix. Il prône la séparation totale entre Palestiniens et Israéliens. Je cite. Bien sûr, la séparation n'aura pas lieu le long des frontières d'avant 67, car le Jourdain restera notre frontière de sécurité, Jérusalem restera unie à tout jamais, mais nous ne voulons pas que la population israélienne continue à être exposée au terrorisme. Et il prétend, dans ce cadre, mettre fin à l'occupation. Je cite. Je suis convaincu que la voie suivie par ce gouvernement est la bonne, mettre un terme à la domination sur les Palestiniens dans les territoires, car elle constitue une entité distincte de la nôtre sur tous les plans politiques, religieux et national. Nous arriverons à une séparation entre nous et eux, car nous devons briser le cercle de haine. Nous réaliserons la paix, c'est la seule solution à long terme, y compris pour éradiquer le terrorisme. On commence à évoquer une clôture de sécurité en Cisjordanie. Deux commissions sont établies pour étudier la question. On se heurte immédiatement au problème essentiel, celui du tracé. Il ne pourra que préfigurer le règlement définitif, soit qu'il soit sur la ligne verte, soit qu'il englobe une partie de la Cisjordanie. Que deviendront alors les colonies qui sont au-delà de la clôture ? D'un côté, la clôture rendra plus efficaces les mesures de bouclage en mettant fin à l'utilisation des pistes et des sentiers pour éviter les barrages israéliens. De l'autre, elle limitera les échanges économiques entre Palestiniens et Israéliens. L'appauvrissement des premiers facilitera le recrutement des terroristes, tandis que les seconds perdront un marché économique lucratif. Rabin se montre plutôt partisan de s'en tenir à la ligne verte, mais devant les difficultés, décide de remettre le choix final au lendemain des élections palestiniennes. On va terminer le passage. Dans l'immédiat, on s'en prend au réseau caritatif islamique accusé de servir de soutien et de lieu de recrutement pour les mouvements islamistes. On frappe ainsi par la même occasion le réseau le plus efficace d'aide à la population pauvre. Clinton suit le mouvement aux États-Unis en bloquant les biens de 12 organisations extrémistes soupçonnées de vouloir détruire le processus de paix. Le CAR est mis au même rang que le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique. Ce sont des organisations prête-nom qui sont visées et qui collectent des fonds aux États-Unis pour des fins caritatives. En même temps, le gouvernement Rabin décide de faire un appel massif à la main-d'œuvre étrangère, africaine et asiatique pour remplacer les travailleurs palestiniens. La sécurité implique une séparation des populations et les entreprises israéliennes ne peuvent plus supporter les à-coups des bouclages. Or, le Proche-Orient méditerranéen se trouve justement être la zone de convergence des migrations de travail africaines et asiatiques. À l'usage, cette solution présentera aussi beaucoup d'inconvénients. Par sa définition ethno-religieuse, la société israélienne est bien plus proche des sociétés arabes du Golfe, en tant que système fermé, que des sociétés industrielles européennes et nord-américaines, pour lesquelles la migration doit déboucher sur l'intégration. Les problèmes contemporains liés aux migrations vont s'en trouver amplifiés, d'autant plus que, contrairement aux Palestiniens qui rentraient chez eux le soir, les nouveaux résidents sont obligés de se loger dans des conditions très précaires. Ils ont en théorie des contrats d'un an non renouvelables, mais les employeurs continuent à les utiliser comme clandestins. On s'inquiète rapidement du risque de voir la délinquance sous diverses formes se développer. Le seul réconfort pour Arafat est la conclusion d'un accord de coopération économique avec la Jordanie qui ouvre un bureau de liaison à Gaza, le troisième après celui du Maroc et de l'Égypte. Le dossier de Jérusalem sera traité ultérieurement. Et voilà pour aujourd'hui. Je crois que vous avez eu très largement votre contentement.